Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Hébreux 13, verset 8, dans un premier temps. Hébreux 13, 8. Et plus tard, nous lirons aussi les versets 6, 7 et 8.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Voilà ce que dit ce verset. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est une phrase lourde de conséquences. Lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est lourd de conséquences. Ça nous engage à quelque chose de très, très grand. Puisque nous sommes en train de parler de Jésus qui a vaincu la mort et qui a vécu certaines choses. Et je dirais même qui a vécu toute une vie de gloire et de puissance, de vérité et d'amour. Alors il nous est dit que ce Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souvent, quand les prédicateurs citent ce verset, ils insistent sur le côté des miracles de Jésus, qu'il peut faire encore des miracles aujourd'hui. C'est bien vrai. Nous allons dire la même chose sur ce plan-là. Mais le verset ne dit pas que Jésus-Christ fait des miracles, a fait des miracles hier, il peut en faire aujourd'hui. Il dit clairement qu'il est le même dans sa nature, le même dans sa volonté de sauver. Vous savez, il est écrit dans Luc 19, 10, qu'on va lire tout à l'heure, que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça n'a pas changé. Au fait, on veut nous dire que tout ce que tu peux savoir de Jésus dans les Écritures, ça n'a pas changé. Que Jésus-Christ soit contre le mal, contre le péché, ça n'a pas changé. Que Jésus-Christ donne la puissance qui libère du mal, ça n'a pas changé. Qu'il soit venu détruire les œuvres des ténèbres, ça n'a pas changé. Qu'il soit venu sauver l'humanité entière, ça n'a pas changé. C'est pourquoi je dis que c'est une phrase lourde de conséquences. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une phrase qui pousse à se poser la question. Suis-je en train de vivre le même Jésus que je lis dans les Écritures? C'est ça la conséquence de cette phrase. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Suis-je en train de vivre le même Jésus? Où je considère que nous vivons des temps différents, du coup un Jésus différent. Ce verset dit non, non, non. Jésus, lui, n'a pas changé. Les temps sont différents, mais Jésus-Christ, lui, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a vécu hier, sa conception d'hier, sa doctrine d'hier, ses enseignements d'hier sont les mêmes enseignements qu'aujourd'hui. S'il n'a jamais prêché le fait de réussir sa vie terrestre, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va inspirer ses serviteurs à prêcher cela. Donc comprenons cela, le Jésus du Nouveau Testament, même de l'Ancien Testament, puisqu'on parle déjà de lui dans l'Ancien Testament, il n'a pas changé. Dans Ésaïe 53, on dit qu'il est venu se sacrifier pour le salut de toute l'humanité. Mais dans Hébreux 7, 25, on nous dit qu'il continue à se sacrifier jusqu'à aujourd'hui par des prières pour que les gens qu'il a sauvés soient maintenus dans le salut. Donc Jésus n'a pas changé, il est le même. C'est une phrase d'une lourde conséquence qui pousse à la question suivante. Est-ce que tu vis le même Jésus que Zachée avait rencontré? Donc nous passons au concret, Luc 19, 1 à 10, puisqu'il nous est dit qu'il est le même. Nous allons voir qui il était avant, qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il a produit avant, qu'est-ce qu'il a enseigné avant, afin que nous répondions à la question, suis-je en train de vivre cela encore aujourd'hui? Est-ce Jésus est ce que je lis dans ma vie, dans mon environnement? Luc 19, 1 à 10.
Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Amen. Est-ce que Jésus qui est décrit dans cette parole a la même attraction dans ton cœur? Est-ce qu'il t'attire autant qu'il a attiré Zachée? Zachée, un homme puissant, un homme riche, mais malhonnête. Nous en connaissons beaucoup aujourd'hui, riche mais malhonnête, mais il n'en demeure pas moins orgueilleux, ces gens-là. Et ils ne cherchent pas à s'humilier, au contraire, ils font une fuite en avant dans la recherche d'argent et de puissance pour devenir toujours plus grand. Quand nous pouvons voir que le président de la Fédération française de football, mais il avait 81 ans, donc nous comprenons qu'est-ce qui animait cet homme. C'est le pouvoir et l'argent, malgré son âge. À 81 ans, tu continues à gérer une grosse machine, une grosse structure comme cette fédération. Et Zachée, c'était à peu près pareil. Mais il n'était pas aussi âgé. Mais il était aussi puissant et aussi mafieux. Mais il a été attiré par une gloire supérieure. Est-ce que Jésus t'attire de la même manière? Bien-aimé, c'est ça. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Une fois, j'avais été invité dans une église en Afrique où les gens entendent toutes sortes de prédications du genre « Viens à Jésus, tu auras un très bon travail, tu seras le premier à l'école, tu iras en Europe, viens à Jésus, tu auras le succès. » Mais je leur ai dit, mais c'est curieux, dans les évangiles, quand on lit, on parle de Jésus, on voit Zachée qui abandonne tout ce que les prédicateurs vous promettent pour saisir Jésus. Jésus, Zachée, lui, il avait l'argent qu'on vous promet. Il avait la puissance qu'on vous promet. Il avait les relations, puisque il était en lien avec les hautes autorités romaines à qui il remettait l'argent des impôts. Il avait de l'influence. Mais lui, en voyant Jésus, il a vu quelque chose de plus grand que l'argent, de plus grand que les influences, de plus grand que la puissance humaine. Il a vu quelque chose de plus beau que l'univers. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Psaume 45. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Quand il voit Jésus, il voit quelque chose qui a plus de goût que l'argent. Lui qui était amoureux de l'argent, il change de camp. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Dans ton cœur, est-ce qu'en observant Jésus, tu vois quelque chose de supérieur à l'argent, de supérieur au mariage, le supérieur à ta maison. Est-ce que quand tu observes Jésus, tu es comme Zachée, qui finit par dire, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Ça ne me dit rien tout ça. Je viens de saisir le meilleur. Et l'autre moitié, je rembourse, je paye à ceux à qui j'ai demandé beaucoup plus d'argent qu'il ne fallait. Zachée se débarrasse de ce que fait la force de l'homme pour saisir le meilleur qui est Jésus-Christ. Mais combien de chrétiens nous ne voyons pas s'accrocher à leur bien, à leur honneur, à leur titre, à leur... Combien... Mais Zachée a vu tout ça comme vain devant la grandeur de Jésus. Et toi qui n'es pas encore converti, regarde l'exemple de Zachée. Il a vu tout cela vain. Il n'était pas fou, il était amoureux de l'argent plus que toi. Il était fier plus que toi, mais il est monté sur un arbre pour contempler le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a compris à qui il avait affaire. Mais maintenant, le texte d'Hébreux 13:8 nous dit que Jésus, il n'a pas changé. Le Jésus qui a impressionné Zachée, c'est le même aujourd'hui. Du coup, nous ne pouvons pas non plus nous changer la prédication. Nous devons présenter le Jésus que Zachée avait vu. Qui a fait que Zachée considère tout ce qu'il avait comme force, comme possession, comme quelque chose de vain devant la grandeur et la gloire de Jésus. Voilà notre prédication. Saisis Jésus. Zachée avait plus de vêtements que toi. Il avait plus de bijoux que toi. Plus d'or. Mais devant Jésus, il a considéré ça comme vanité. Devant Jésus, le maquillage doit devenir vanité. Devant Jésus, la mode vestimentaire doit devenir vanité. Nous n'interdisons personne de s'habiller, mais nous sommes en train d'expliquer que devant Jésus, ça devient secondaire. Si j'ai des moyens, j'ai des moyens, je m'en achète, mais ça ne devient pas un souci. Puisque j'ai le meilleur, j'ai le plus grand, le plus beau. Nous sommes en train de lire ensemble, bien-aimés, ce n'est pas moi qui dis. Nous sommes en train de lire, de voir comment un homme est transformé, abandonne ce que les gens même cherchent dans le christianisme. Lui, il abandonne ça parce qu'il a saisi Jésus, le meilleur. Qu'est-ce que nous lisons encore dans cette histoire de Zachée? Nous voyons Jésus déterminé. Déterminé à faire quoi? À sauver une âme. Déterminé à sauver une âme. Comment nous voyons qu'il est déterminé? Tout le monde détestait cet homme-là. Mais Jésus, devant tout le monde, il l'appelle et il s'invite chez lui. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup te diront, c'est une erreur stratégique, mon ami. Toi, tu veux toucher cette ville et tu vas chez cet homme-là que tout le monde déteste. Les gens ne vont plus croire en toi. Mais quand Jésus veut sauver, il est déterminé. Ça nous apprend cela. Maintenant, Hébreux 13:8, vous voyez, je vais commencer toujours à revenir sur Hébreux 13:8. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel qu'il était hier, tel qu'il est aujourd'hui. La détermination de sauver Zachée, c'est la même détermination aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Il a délaissé toute une foule qui le suivait pour aller chez un homme que tout le monde détestait. Il y a un chant chrétien qui dit, cherchons-le. Cherchons-le, savez-vous le prix d'une âme? Est-ce que tu connais le prix d'une âme? Le prix d'une âme a été fixé à la croix. Donc le Fils de Dieu nous a élevés en mourant pour nous. Lorsqu'il est mort pour nous, il a fixé le prix d'une âme. C'est sa propre vie à lui. Pensons-nous que Dieu ne veut pas sauver les Français? Pensons-nous que Jésus a délaissé une race, une population? Jamais. Il est toujours pareil. Il a la même détermination, laisser toute une foule pour aller suivre une seule âme que personne d'autre, dont personne d'autre n'allait s'occuper, puisque tout le monde le considérait déjà comme perdu. Mais lui va jusqu'à cette personne. C'est pour nous dire quoi aujourd'hui, bien-aimé? Est-ce que tu vis cela, cette détermination à continuer à prier pour quelqu'un qui t'embête, pour quelqu'un qui te fait du mal, pour quelqu'un qui t'a violé, qui t'a fait du mal autrefois? Est-ce que tu continues à prier pour cette personne? Savez-vous le prix d'une âme? Il y en a qui détestent les Arabes. Vous, vous connaissez ce que c'est qu'un Arabe devant Dieu? Il a donné son fils pour un Arabe. Il y a des gens qui détestent les Blancs, qui détestent les Noirs. C'est des abominations. Parce que Jésus a été déterminé pour aller chercher celui que les gens ne détestaient pas gratuitement en plus. Hein, juste par racisme ou bien par préjugé. Mais que les gens détestaient parce qu'il avait vraiment fait aussi du mal. Qu'il était un traître pour la nation. Mais devant Dieu, c'était une âme à sauver. Ça, c'est la détermination de Jésus. Il ne fait pas de favoritisme. Il nous considère, nous tous, pécheurs de la même manière. C'est pourquoi il pouvait laisser toute cette foule et aller suivre Zachée. Les gens même l'ont critiqué. Il a, comme on dirait aujourd'hui, il s'est presque discrédité. Mais au fond de lui, il ne s'est pas discrédité puisque c'est ça son rôle. Il le dit à la fin, au verset 10, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est ça mon job, il dit. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de méchant dans ce que j'ai fait. Je suis venu pour ça, bien-aimé. Savez-vous le prix d'une âme? Ça, c'est Jésus qui nous enseigne cela. Maintenant, Hébreux 13, 8 dit, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est cela, bien-aimé. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous voyons une fois de plus une vérité dans ce texte. C'est que le péché avec Jésus, ça ne colle pas. Parce que c'est quand Zachée a dit « Je rembourse aux gens à qui j'ai volé », c'est là que Jésus dit « Le salut est entré dans cette maison ». Est-ce que ça veut dire que c'est quand le salut est entré, quand Zachée a dit cette phrase? Non. Le salut est déjà entré, mais nous le savons quand Zachée dit cette phrase. Il y a eu un travail spirituel qui s'est fait, qui a amené Zachée à délaisser son péché et à délaisser son amour, l'argent. L'amour de sa vie, c'était l'argent. Il a changé de camp. Et mais nous le savons comment? Quand il dit la phrase, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et ceux à qui j'ai volé, je vais leur rendre fois quatre. Ça veut dire que même l'autre moitié risque de finir aussi. Nous comprenons, et Jésus nous explique par là, que voilà la manifestation du salut. Quand le salut est entré dans une personne, voilà la manifestation. Nous le savons désormais, puisque cette personne ne vit plus comme un humain normal en fonction des biens matériels, du succès ou de l'honneur, mais il vit maintenant pour Christ, puisqu'il se débarrasse de ce qui fait la force d'un homme. Mais aujourd'hui, quand les gens prêchent que il faut venir à Jésus pour avoir telle chose, telle autre chose, tel succès, ainsi de suite. Est-ce qu'il s'agit du même Jésus? Non, il ne s'agit pas du même Jésus. Nous venons de voir l'effet de Jésus dans la vie de Zachée. Nous venons de voir cela. Transformation totale, nouvelle naissance. Nous lisons Marc 2, 1 à 17. Puisqu'il est question de Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons voir ce qu'il était hier. Il nous est dit qu'il est pareil aujourd'hui. Ça n'a pas changé. S'il a attiré un homme esclave de l'argent comme Zachée, il peut encore attirer des gens esclaves de la beauté, de la mode, esclaves de l'impudicité, du vol, du mensonge, de la cigarette. Aujourd'hui encore, Jésus attire. Aujourd'hui encore. Et quand quelqu'un saisit Jésus, il délaisse le reste pour le suivre. On vient de voir cela. Lisons maintenant Marc 2, 1 à 17.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »
Amen, amen. Nous allons nous arrêter là pendant un instant. « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et il nous est dit dans Hébreux 13, 8, « Souvenons-nous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Ce qu'il a fait hier, il est pareil encore aujourd'hui. Parce que quand les apôtres, par la suite, ont fait la même chose que lui, eh ben, c'est lui qui faisait en eux, c'est pas eux-mêmes. C'est lui qui travaillait toujours. Souvenons-nous de Matthieu 28, 18 à 20, il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis parmi vous jusqu'à la fin des temps. » C'est lui qui réalise ces choses-là. Et nous sommes devant un cas d'extrême gravité, un homme paralytique, incapable de se lever de sa natte, de son lit. Et ses amis ont à cœur sa guérison. Ils ont appris que Jésus était dans une maison. Ils se sont dit, c'est l'occasion que nous ne pouvons pas rater. Est-ce que toi, tu te dis la même chose aujourd'hui? C'est ça notre prédication. C'est l'occasion à ne pas rater. Le Jésus que nous lisons, il est le même aujourd'hui. Alors je vais lui dire mon problème clairement. C'est l'occasion à ne pas rater. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est ton occasion. Jésus se présente à toi comme celui qui a guéri ce paralytique, comme celui qui a pardonné les péchés de ce paralytique. Ces gens-là ont une conscience que beaucoup n'ont pas, ont eu une conscience que beaucoup n'ont pas aujourd'hui de se dire, ben, Jésus est là, je vais braver tout, mais il faut que je le saisisse. Quitte à tout perdre, me créer des problèmes. Vous allez ouvrir le toit d'un bâtiment qui ne vous appartient pas. C'est grave. Mais ils se sont dit, ben, ce que nous cherchons, ça en vaut la peine. Nous n'allons pas respecter la maison de quelqu'un. Parce que ce que nous cherchons vaut de loin plus qu'une maison. La guérison est paralytique. Vous savez que si même notre État, l'État français, devait payer 2 millions d'euros pour la guérison de chaque handicapé paralytique, l'État le ferait. Si c'est sûr que telle méthode emporte la guérison, il y aura des systèmes pour faire que les handicapés marchent. Ces gens-là se sont dit, ce que cet homme peut faire dans une vie, ça dépasse la valeur de toit, du toit d'une maison. Nous allons l'ouvrir. Ils l'ont ouvert. Silence dans la salle. Le paralytique est descendu et Jésus dit, surprise, tes péchés sont pardonnés. Parce que les gens s'attendaient peut-être à ce qu'ils disent, ah bon, tu veux être guéri. Non, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus nous montre par là que le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le vrai problème. En apparence, nous pensons que c'est la nourriture, l'argent, le logement, la paix dans les familles. Non, le vrai problème qui est à l'origine de tous les autres maux, c'est le mal, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus commence par là. Il faut que cet homme ait un nouveau cœur afin de pouvoir recevoir un nouveau corps. Ne changeons pas l'ordre des choses. Un nouveau cœur qui reçoit un nouveau corps. Dieu peut faire les deux en même temps. Ça, c'est dans sa discrétion, dans sa souveraineté. Mais nous devons appliquer l'ordre de Jésus. Nous ne sommes pas Dieu. Nous devons présenter aux gens ce que Jésus-Christ fait le plus important, c'est changer un cœur. Parce qu'un corps peut être guéri et aller en enfer quand même. Voilà ce que nous apprenons de ce Jésus d'hier. Il est venu changer ton cœur et mon cœur afin que nous recevions un nouveau corps de guérison, de délivrance. C'est cela. Les gens ont voulu polémiquer, mais de quel droit il veut, il pardonne les péchés. Jésus a dit, vous allez comprendre que j'ai l'autorité. Parce que dire que tes péchés sont pardonnés, c'est facile. Vous savez, comme aujourd'hui, prophétiser quelque chose qui va arriver dans 15 ans à quelqu'un, c'est facile. Puisqu'après 15 ans, les gens ont oublié. Hein. Même après une année, beaucoup oublient. Nous, nous étions dans des assemblées où les gens prophétisaient beaucoup. Et après, nous oublions. Mais il y avait quand même quelques têtus qui retenaient et qui rappelaient que ça ne s'était pas accompli. Mais même quand quelqu'un nous disait, mais finalement, ça ne s'est pas accompli, on se disait, ah oui, on avait oublié qu'il avait dit telle chose. Mais voilà. C'est facile de dire des choses qu'on ne peut pas vérifier à l'instant. C'est facile. Mais quand tu dois dire « lève-toi et marche » à un paralytique, là, ça c'est au temps présent. Ce n'est pas « tu marcheras un jour » ou « tu marcheras dans 2 ans ». Non, là c'est dans le temps présent. C'est un ordre. « Lève-toi et marche ». Jésus a dit « ben, vous allez comprendre que là, ce n'est pas tout le monde qui peut parler ainsi ». Si quelqu'un peut parler ainsi, s'il a autorité sur les microbes, il a autorité sur les molécules, il a autorité sur les nerfs, ben il a autorité aussi sur le péché. Lève-toi et marche. Le paralytique se lève et marche. Qu'est-ce que nous apprenons? Jésus n'était pas un homme de discours long et compliqué. Il était un homme de puissance et de gloire. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Oui, parce qu'à la croix, il va verser son sang pour les péchés de cet homme. Tu doutes, eh bien, tu vas être témoin de la manifestation de la gloire de Dieu qui va trancher, bien-aimé, que la gloire de Dieu tranche pour nous, pas nos discours. Ne cherchons pas à nous défendre, à trop parler, à dire, je fais ceci, je suis cela, j'ai tel ministère. Non, la gloire de Dieu doit affirmer qui tu es. Toi, sors la parole que Dieu te donne pour le salut de l'humanité, pour le salut des gens, pour la révélation de Dieu auprès des personnes. Mais ne te défends pas toi-même. Laisse la gloire de Dieu faire la différence. La gloire de Dieu, pas seulement dans le miracle, mais dans la supériorité spirituelle, dans l'amour pour les autres. Les gens feront la différence. Dans la joie, pendant les épreuves, les gens feront la différence entre toi et un beau discoureur. Et bien sûr, c'est ces gens-là dont je parle, c'est les gens de vérité. Parce que les gens qui veulent le bling-bling, l'animation, la distraction, eh bien, ils ne feront pas la différence. Ils croiront que toi, tu n'as rien du tout, parce que tu parles moins fort. Mais Jésus a dit, ben, lève-toi et marche. Et le peuple a fait la différence. Il a dit, oh, parce que le peuple a entendu les murmures de leur chef. C'est n'importe quoi ce qu'il fait là. Mais quand Jésus a fait lever le paralytique, le peuple a dit, ah là, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Là, ça ne peut être que quelque chose qui vient de Dieu. Voilà ce que nous apprenons du Jésus d'hier. Mais Hébreux 13, 8 nous dit quoi? Il est aujourd'hui encore pareil. D'où notre responsabilité. Pourquoi ne pas vivre cela nous aussi? Puisque lui, Jésus, n'a pas changé. Conséquence, il y a quelqu'un qui a changé pour que ça ne se réalise pas. C'est peut-être nous qui n'avons pas pris l'évangile par le bon bout. C'est peut-être que nous vivons dans une époque où il y a d'abord une sorte de retour à Jésus qui doit se faire, même si les gens s'appellent chrétiens, mais ils ne sont plus vraiment à Christ. Il doit se faire d'abord un retour à la vraie parole, à la vérité, afin de vivre les mêmes choses. Aujourd'hui, les gens parlent, témoignent beaucoup plus de miracles que les miracles eux-mêmes. Quand quelqu'un met un témoignage sur YouTube d'un miracle qui est arrivé après sa prière, c'est ce témoignage-là qui va recueillir le plus de vues. Mais lorsque nous mettons une exhortation qui appelle les gens à rechercher Jésus pour vivre le miracle, eh bien, il n'y a personne. Du temps de Jésus, c'est le miracle qui parlait. Ce n'était pas lui qui parlait. Vous allez voir, il va donner même des instructions à quelqu'un de ne pas dire le miracle qu'il vient de faire. Parce qu'il sait qu'on n'a pas besoin de parler. Les gens ont vu cet homme paralytique. Les gens voient qu'il marche maintenant. Pourquoi dire encore « j'ai fait le miracle » Mais c'est clair. Si nous parlons trop aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Normalement, les miracles ont la bouche pour parler d'eux-mêmes. Nous continuons l'extraordinaire, de lire sur l'extraordinaire Jésus-Christ. Eh bien, qui est le même encore aujourd'hui? Il nous dit, il n'a pas changé. C'est toi qui dois changer ta pensée sur lui aujourd'hui. Verset 13, je crois.
Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bord des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit.
Voilà, est-ce que... Il n'y a plus de... Voilà. Lévi, c'est Matthieu. Lévi, c'est Matthieu. Et celui qui est devenu apôtre de Jésus. Alors, vous vous rendez compte que cet homme est assis dans son bureau. Il est à peu près comme Zachée, collecteur d'impôts. C'est parce que c'est écrit qu'il est assis au bureau des péages, donc au bureau des impôts. Il est assis dans le bureau. Donc, c'est un homme riche. C'est un homme qui a des relations. Il est écrit, Jésus lui dit, suis-moi. Je ne pense pas qu'il a entendu la même voix que moi je donne là. Suis-moi. Je pense que ses organes, les bras, les jambes, ces molécules, en ce moment-là, ont été pourvues d'oreilles. Et ces oreilles-là ont entendu la voix du ciel. Jésus dit, suis-moi. Mais c'est tout son être qui a entendu. Ce n'est pas seulement ses oreilles. C'est tout son être. La voix du Seigneur m'appelle. Quand tu entends cette voix-là, c'est tout ton être qui se lève. Les gens ne vont pas comprendre parce qu'eux, ils n'ont pas entendu cette voix-là. Mais c'est Jésus qui appelle Lévi, qui va devenir Matthieu. Il n'a pas changé. C'est le même qui appelle. Pourquoi si peu de missionnaires aujourd'hui? Pourquoi si peu de gens qui abandonnent tout comme Matthieu? Matthieu, vous vous rendez compte, il a abandonné son bureau. Il n'a pas demandé un mois, deux mois de préavis. C'est tout son être qui a entendu. Il a suivi. Tout son être a entendu la voix qui dit « Suis-moi ». Il a lâché prise pour suivre. Jésus n'a pas changé. Ça veut dire qu'il parle avec cette même voix-là. Mais c'est l'homme qui est devenu encore plus dur. Les intérêts humains sont devenus encore plus forts chez les humains. Ils entendent la voix. Ils disent, mais attends, Seigneur. Attends. Lévi a suivi. Nous continuons le texte.
Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
Voilà, bien-aimé. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les gens crient, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec les gens de mauvaise vie? Mais bien-aimé, ces gens de mauvaise vie, au moins, eux, ils le reçoivent. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui se croient de bonne vie, mais qui sont dans la religion, qui ne sont pas avec Christ. Colossiens 2, 16 à 18, parle de ces gens-là qui ont une apparence de piété, de pureté, mais qui ne fait que satisfaire la chair, qui n'a rien à voir avec le véritable évangile où quelqu'un consacre sa vie. Ils sont dans leur confort, devant leur téléphone portable, pour prêcher ceci, cela. Mais personne n'ose aller dans les villages où il n'y a pas de prédicateur pour apporter l'évangile. Tout le monde est devenu professionnel de YouTube. Mais qui c'est qui abandonne tout pour aller vers des gens non atteints? Personne. Ils ont une apparence de piété, de droiture. Mais où est le sacrifice qui montre que vraiment nous avons été touchés? Matthieu, lui, il a tout lâché. Il invite maintenant ses amis de mauvaise vie. Venez entendre ce qui m'a fait lâcher, ce que j'ai lâché. Vous croyez que s'il n'avait pas vraiment lâché, il aurait le courage d'inviter les autres? Il les invite parce que lui, il a entendu cette voix. Il dit, comprenez-moi, comprenez-moi, comprenez-moi. C'est cette voix-là que j'ai entendue. Venez aussi l'écouter. Bien-aimés, ne cherchons pas à défendre Dieu. Dieu se défendra lui-même. Défendons-nous dans le sens, par rapport à, c'est ce qui est écrit dans l'épître de Pierre. Défendons notre croyance. C'est-à-dire, ça veut dire, pourquoi toi tu crois? C'est ça que tu dois dire aux gens. Moi j'ai cru parce que j'ai entendu telle chose, j'ai vécu telle chose, j'ai entendu la voix de Dieu. Venez entendre la même voix. Nous n'avons pas passé nos débats, comme je dis souvent aux gens qui sont dans des débats avec les musulmans, ceci, cela. Mais non, dites à ces gens-là que si vous croyez en Jésus, c'est parce que Jésus, à vos yeux, a fait l'épreuve d'être Dieu, d'être fils de Dieu, d'être homme, d'être mort et d'être ressuscité. Il a fait ces preuves-là, c'est pourquoi vous croyez. Mais cherchez à expliquer tout ce qui est de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu pour tout expliquer de Dieu. Dites pourquoi vous croyez. Donc Matthieu invite les amis pour dire, voilà pourquoi moi je crois. J'aime beaucoup mon ami, je crois Ali, qui est parti à la Mecque chercher Dieu dans l'islam. Et c'est là-bas que Jésus se révèle à lui. Il est transformé. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui ne connaissait rien de Jésus, il le connaît maintenant, il est transformé, mais il n'a jamais vraiment lu la Bible. Mais quand il revient chez lui, il en parle avec sa femme et les voisins font une fête pour l'accueillir. Il vient de la Mecque, voilà, on appelle ça Hajj maintenant, ben, il est un Hajj, ben, on fait une sorte de fête pour l'accueillir. Il dit, est-ce que, après un moment, après le repas, il dit, est-ce que je peux parler un instant? Il dit, j'ai été à la Mecque, j'ai rencontré Issa, et il m'a transformé. Je suis une nouvelle personne maintenant. Mais ça s'est arrêté là. Il n'était pas éloquent. Il ne savait pas quoi dire pour convaincre les autres. Il leur disait tout simplement ce qui lui est arrivé. J'ai rencontré Issa, j'ai rencontré Jésus. Il m'a transformé. Il m'a demandé de sortir de l'islam pour devenir son disciple. Voilà. Il s'est arrêté là. J'aime une telle prédication. Quelle simplicité. Tu dis tout simplement, c'est que la voix que tu as entendue, j'ai entendu sa voix. Et il m'a changé. Et il était devenu comme un agneau, alors que lui, il était un alcoolique terrible. Il a dit, il m'a changé. Mais voici. Il n'a même pas dit, venez à lui. Non. Il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Bien-aimé, dites aux gens ce qui vous est arrivé. Ne cherchez pas à devenir défenseur de la Bible pour tout expliquer ce qui est dans la Bible. Dis aux gens, pourquoi toi tu crois? Parce que vouloir à tout expliquer, c'est comme si c'était toi qui étais Dieu. C'est le piège dans lequel ces gens-là nous attirent à vouloir prendre la place de Dieu. Toi, tu dois justifier, c'est ce que le frère Pierre dit, tu dois toi te défendre de ta foi. Pourquoi toi tu crois? C'est ça que tu dois expliquer, défendre. Ce n'est pas vouloir prendre la place de Dieu, expliquer ce qui paraît anormal, mais comment se fait-il que Jésus priait, il priait, crie, alors que lui-même est Dieu. Mais si tu as compris ça, tu expliques. Si tu n'as pas compris, tu dis, vous savez pourquoi moi je crois? Je crois parce que dans les Écritures, Jésus a fait la preuve d'être Dieu à cause de ceci. Il a fait la preuve d'être fils de Dieu à cause de cela. Il a fait la preuve d'être un homme. Il a montré la preuve d'être aussi ressuscité. À partir de cela, je ne vois pas qui d'autre chercher. Vous savez, quand Pierre, les gens ont quitté Jésus, parce que Jésus avait dit, il faut me manger. Vous savez que beaucoup l'ont quitté à cause de ça. Il faut me manger. Comment ça, de manger un humain? C'est du cannibalisme. Et les 12 sont restés. Jésus dit, mais vous, vous ne me quittez pas? L'apôtre Pierre a dit, nous n'allons pas te quitter parce qu'il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Il n'a pas expliqué la phrase de Jésus parce que c'était hors de... Il n'avait pas non plus l'explication claire. Il a dit pourquoi lui n'allait pas quitter Jésus. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont embarqués à vouloir justifier aux athées tel verset biblique, telle nature de Jésus. Non, dis pourquoi toi, comme Pierre a dit, c'est parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, dis pourquoi toi tu suis Jésus, c'est tout. On ne te demande pas de tout expliquer sur Jésus, tu n'es pas Jésus. Dis pourquoi toi tu suis Jésus. C'est ce que Jésus attend de nous, c'est ce que Matthieu a fait. Il a réuni les gens pour dire pourquoi lui il croyait. C'est ce monsieur-là que j'ai entendu. Ben, écoutez-le vous aussi. C'est ce qu'a fait Demos Chakarian, celui qui a fondé les hommes d'affaires du plein évangile. Il a dit, mais puisqu'il y a des milieux où l'évangile n'arrive pas, notamment les milieux des affaires, ben, on va commencer à faire des réunions, nous les hommes d'affaires chrétiens. Nous allons inviter quelqu'un qui va dire à tout ce monde-là pourquoi il croit en Jésus. Pas commencer à expliquer, à prêcher là. Non, non, non. Dis-nous pourquoi toi tu t'es converti. Cette organisation a fait beaucoup, beaucoup de bien à l'œuvre de Dieu, même si aujourd'hui elle a été infiltrée par les catholiques qui ont tout détruit. Mais pendant des années, cette organisation a sauvé beaucoup, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de personnes. Parce que c'est simple. Je viens te dire pourquoi moi je crois. C'est-à-dire que je fais le même travail que Lévi, que Matthieu. Et à chacun d'entendre cette voix et de se laisser toucher. C'est cela. Jésus n'a pas changé. C'est cette prédication-là que nous devons apporter, dire aux gens pourquoi nous nous croyons. Ça n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les meilleurs. Il est venu pour les mauvais. Si tu es déjà meilleur, donc tu n'es pas concerné. Il est venu pour ceux qui se sentent faibles, perdus, qui ont besoin de lui. Et même si tu es chrétien, tu te sens faible, parce qu'il y a des moments où c'est difficile, ben sache que Jésus est là pour toi. Hébreux 7, 25 dit qu'il continue toujours à intercéder pour toi, qu'il a sauvé par son propre sang. Il ne t'abandonnera pas. S'il fait ça pour les gens qui ne sont pas encore sauvés, pourquoi il t'abandonnerait toi? Il ne t'a pas abandonné. Jésus est là. C'est ça la réalité. Nous lisons Marc 5, un passage extraordinaire, 25, je crois jusqu'à 43. Parce que la question qui vient, c'est quoi? Ma sœur, mais nous avons réclamé que Jésus était le même en lui demandant la délivrance par rapport à certains problèmes, en lui demandant un miracle. Mais ça n'est pas arrivé. Eh bien, ce n'est pas la première fois. Nous lisons dans Marc 5, 25.
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se tenant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal.
Amen, 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 amen. Voilà cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle a cherché toutes sortes de manières d'être guérie. Mais ce jour-là, elle s'est dit, je ne rate pas mon occasion. Je saisis Jésus. J'ai appris qui il est. Aujourd'hui, Jésus nous dit encore, tu sais qui je suis. Vous savez qui je suis. Quelqu'un va dire, mais nous le savions depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire, bien-aimé, qui peut parler comme ça dans ton cœur? Je vais te dire ce que moi j'ai reçu du Seigneur. Considère que c'est aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Cette femme, si elle avait fait le même raisonnement que toi aujourd'hui, elle n'allait jamais chercher à s'accrocher aux vêtements de Jésus. Elle allait se dire, j'ai déjà tout essayé. J'ai déjà tout tenté. Et c'est ce que toi, tu peux dire aussi aujourd'hui. C'est ce que moi, je peux dire, bien-aimé, ça fait longtemps que je suis chrétien. Nous avons fait des prières de toutes sortes dans les régions parisiennes. Des jeûnes de 40 jours, des prières dans les forêts, des prières avec les cartes des villes. On a fait toutes sortes de prières pour voir la manifestation de la gloire de Dieu en France. Ce n'est pas encore arrivé tel que nous attendons. Mais dois-je dire que j'ai tout tenté? Non. Puisque Hébreux 13, 8 dit quoi? Rappelons-nous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je vais essayer de prier pour la France. Je considère que Jésus est devant moi aujourd'hui. Hier, voilà ce qu'il a fait pour cette femme. Puisqu'il n'a pas changé, je vais prier encore. C'est que j'ai fait comme activité de prière pendant 20 ans, c'est hier. Maintenant, aujourd'hui, j'ai le Seigneur en face de moi. Je vais lui parler encore, lui en parler. Comme cette femme-là qui avait prié, qui avait donné de l'argent au guérisseur pendant 12 ans, je considère que j'ai fait 20 ans, 25 ans de prière pour le réveil. Ben, je vais le faire, je vais faire encore cette prière aujourd'hui. Puisque Jésus est en face de moi pendant que je parle, aujourd'hui, je vais lui parler encore. Je ne veux pas me dire, ben, j'ai déjà fait ce que je veux faire aujourd'hui, non? L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, je ne regarde pas ce qui est avant moi, ce qui est dans le passé. Je regarde à aujourd'hui. Je regarde à maintenant. Jésus est là maintenant. Je vais lui demander maintenant, aujourd'hui. Et il y a une autre histoire semblable. Un aveugle qui crie, Jésus, sauve-moi. Les gens viennent l'entourer pour dire, arrête de déranger le maître. Ces gens-là, c'est quoi? C'est les raisonnements humains. C'est les autres chrétiens qui ont déjà perdu la foi. Ils vont venir t'entourer pour te dire, arrête, adaptons-nous. Arrête de chercher l'excellence. Contente-toi des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Demande l'argent comme eux. Pleure pour que les gens financent l'œuvre de Dieu. Ne t'attends pas à ce que Jésus de lui-même y donne. Fais payer les concerts. Fais payer les CD. Fais payer les séminaires. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu sera financée. Toi, tu dis, mais non, Jésus a dit aux apôtres de ne même pas prendre leurs propres moyens que lui-même il allait financer. Oh oui, mais si tu continues dans cette logique-là, tu ne feras rien du tout. Le système d'aujourd'hui, c'est insister pour que les gens donnent. Comme un serviteur de Dieu nous avait dit, les gens ont l'argent dans leur poche, il faut secouer les cocotiers, ça va sortir. Mais quand nous lisons les Écritures, Jésus a sorti l'argent du ventre d'un poisson pour payer les impôts. Il a créé les poissons dans l'eau pour que les apôtres fassent une pêche miraculeuse. Ce Jésus-là n'a pas changé. Et toutes ces voix-là vont venir te dire, mais non, sois réaliste. L'argent ne tombera pas du ciel. Moi, je dis, mais si, ça tombera du ciel, puisque la manne est venue du ciel, est tombée du ciel. Il n'a pas changé. Le Dieu de la manne, c'est le même aujourd'hui. S'il a fait tomber la nourriture du ciel, il peut faire tomber n'importe quoi du ciel. Moi, j'ai déjà vécu ça. Je vous ai souvent raconté mes témoignages. Les gens m'ont dit, tu vas frauder puisque tu es sans emploi. Comment tu vas te déplacer? J'ai dit, je ne frauderai pas. Et à chaque fois, j'avais ce qu'il fallait pour payer mon ticket de la semaine, mon coupon de la semaine, à l'époque dans la région parisienne. Et à chaque fois, c'était un miracle. Mais le dernier, le plus grand, ça a été que pendant la semaine, il n'y a eu personne pour me donner. Par la puissance du Saint-Esprit, les gens me donnaient sans savoir que c'était pour mon transport. Et l'avant-dernier miracle, c'était que j'ai trouvé l'argent dans ma veste, que je ne savais pas, que je ne pensais pas avoir. Et le dernier, ça a été qu'en ouvrant la porte de l'appartement, je trouve 200 francs devant, au seuil de la porte. Ce n'est pas 200 francs qui est en train de se balader à gauche, à droite. Non, c'est au seuil de la porte. L'argent peut tomber du ciel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette femme a été guérie. Bien-aimée, l'aveugle, quand il a vu tous ces gens-là qui murmuraient, qui le décourageaient, il est dit qu'il a crié plus fort. Voilà l'exhortation que je te fais aujourd'hui. Ça fait 20 ans que tu demandes. Ben, il faudrait crier plus fort encore. Puisque Jésus-Christ n'a pas changé. Puisqu'il n'a pas changé, c'est quelque chose en nous qui doit changer. Eh bien, si c'est peut-être que nos cris sont faibles, ben nous allons faire comme Bartimée. Crier plus fort pour vivre ces miracles. Crier plus fort pour vivre sa sainteté. Crier plus fort dans la prière, dans le jeûne. Crier plus fort, puisque nous savons que la chose est là. Nous ne pouvons pas nous en priver, puisque Jésus n'a pas changé. Les miracles sont encore là. La sainteté est encore là. Le financement par la prière est encore là. Alors, pourquoi je vais me compromettre à demander l'argent alors que Jésus est présent? Pourquoi je vais tomber dans le découragement à cause d'une maladie alors que Jésus, lui, il est encore là? Je veux crier plus fort comme Bartimée. Nous allons prier le Seigneur et crier plus fort au Seigneur, dire, nous croyons que tu n'as pas changé. Et nous voulons voir le Jésus d'hier agir de la même manière au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimé, Lazare était 4 jours dans le tombeau. 4 jours. Et ses sœurs, quand elles ont vu Jésus, elles ont dit, mais Jésus, tu devais venir depuis longtemps. Si tu étais venu avant, pourtant tu avais eu l'information, il ne serait pas mort. Mais là, ça fait 4 jours, c'est fini. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Rien n'est impossible à moi. Bien-aimé, aujourd'hui, certains peuvent dire, mais ça fait longtemps, pourquoi le Seigneur n'avait pas agi? Mais Jésus a dit, maintenant je suis là. Tu peux encore demander. Donc nous allons demander au Seigneur d'agir dans ce que nous pensons être un problème pour nous, que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème de délivrance, que ce soit un problème de péché, que ce soit un problème quelconque qui nous sépare de lui, prions qu'il se manifeste. Ô Éternel des armées, merci de nous avoir donné ton fils Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous n'avons pas besoin de changer de doctrine. Nous croyons qu'il est là pour nous sauver du péché et nous sauver de toute forme de captivité démoniaque. C'est pourquoi je viens proclamer la fin des souffrances de mon frère, de ma sœur. Je viens proclamer la fin de l'esclavage de mon frère et de ma sœur pour tous ceux dont le cœur est tourné vers toi pour réclamer ton action. Seigneur, agis. Agis. C'est toi qui as donné ce message, que tu étais là, que tu étais présent. Manifeste-toi, libère, libère dans ton amour et dans ta puissance. Guéris les cœurs et guéris les corps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les démons qui sont en fuite, parce que Jésus, toi, tu es présent pour libérer. Merci pour les maladies qui prennent la fuite, parce que tu es présent pour guérir. À toi la gloire, la louange pour ton règne, pour la puissance du Saint-Esprit qui a été promise, qui vient sur nous, Seigneur, conformément à ta parole, au nom de Jésus-Christ, qui est, Seigneur, un réveil dans le cœur, que cette année, Seigneur, soit une année de gloire, où ta lumière va briller au milieu de nous et sauver la multitude. Nous nous attendons à toi pour tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.